Matin.
Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, jusqu'à 19h. Vous êtes entourée des grandes voix pour décortiquer l'actualité de ce mardi. Ils sont tous là. Ève Roger, du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie. Et tous les soirs, nous faisons le tour de France. Nous sommes à vos côtés en région. Et ce soir, direction Marseille avec notre correspondante Nathalie Chevance.
Bonsoir les grandes voix, bienvenue. Bonsoir Nathalie Chevance à Marseille.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Alors, je suis ravie de vous avoir avec Ève Roger. On va commencer ce soir sur ce bras de fer, hein, clairement, entre Olivier Véran et Anne Hidalgo. La maire de Paris veut rouvrir les parcs et jardins. C'est vrai qu'on avance dans la saison, que les jours rallongent, qu'on a bien envie de pouvoir voir trottiner les enfants ailleurs que sur des trottoirs. C'est non, a dit le ministre de la Santé, catégorique, en tout cas pour l'instant.
Alors on a entendu Jimmy Mohamed, notre médecin maison, tout à l'heure, ouais, nous dire qu'il y a peut-être une raison sanitaire. Il y a peut-être une raison sanitaire parce qu'on ne sait pas encore très bien. On sait que le virus ne circule pas dans l'air, mais quand même on ne sait jamais. Et puis surtout, si les regroupements sont trop importants, s'il y a plus de 10 personnes qui se mettent dans le même endroit, ça ne va pas du tout. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'Anne Hidalgo essaie de faire autre chose que ce que le gouvernement propose. C'est-à-dire qu'elle a déjà eu aussi une politique de test des agents de la mairie de Paris, je ne sais pas si vous vous souvenez. Là aussi, ça a été un énorme bras de fer, puisque Olivier Véran, je crois même à l'Assemblée, avait dû dire que c'était pas utile, pas nécessaire de tester tous les agents. Et elle disait, mais oui, mais c'est important que les rippers, donc les éboueurs, puissent savoir quel est leur niveau de virologie. Et puis, elle a fait ça aussi avec les masques. Je sais pas si vous vous souvenez aussi, en fait, c'est encore en cours.
Ils sont pas arrivés.
Voilà, si, vous avez vu ce matin, dans le Figaro, j'ai lu un papier, ils sont arrivés, mais ils sont pas bien, pas du tout adaptés aux personnes âgées. Voilà, c'est ça. Donc les personnes âgées peuvent pas faire deux nœuds derrière leur tête, comme ça, c'est pas possible. Donc d'une certaine façon, on a l'impression que Anne Hidalgo avance comme un bulldozer sur des mesures sanitaires, et c'est vrai que ça peut troubler l'opinion, parce qu'on se dit pourquoi la maire de Paris, elle dit il faut faire des tests, il faut mettre des masques à tout le monde, et il faut ouvrir les parcs, les jardins, et le ministre de la Santé, qui est censé être quand même avoir une autorité, en tout cas sur la santé, plus importante. Et moi je trouve que c'est sans doute c'est un bras de fer politique.
Ça apporte du coup de la confusion, on va y venir avec Mickaël Darmon, mais ça ajoute de la confusion à la confusion, et on n'avait certainement pas besoin de cela.
Et je me demandais si elle était encore en campagne électorale, peut-être.
Peut-être. Alors, Mickaël Darmon, vous savez, puisque on est là pile dans justement les conseils municipaux qui vont s'installer là à partir du 18. On va y revenir dans un instant. Mais cette bataille là qui se joue, c'est une bataille purement politicienne.
Politique, et en fait, c'est vrai que Hidalgo, elle est plus qu'en campagne. Elle se considère comme déjà la nouvelle maire de Paris réélue. On le sent bien, on le voit évidemment à travers ce dossier qu'elle instrumentalise à dessein comme étant effectivement un affrontement avec le gouvernement, ça on vient de l'évoquer. Il faut savoir aussi que il y a d'autres négociations qui sont en train de se passer, notamment avec la région, où Anne Hidalgo, notamment sur la fameuse rénovation de la gare du Nord qui avait été suspendue sur pression des écologistes, les messages qui sont en train de passer, c'est laissez-moi terminer l'élection et puis après on va trouver un protocole pour la redémarrer. C'est ce qu'elle dit notamment à Valérie Pécresse, à la région Île-de-France. Donc clairement, Anne Hidalgo est maire de Paris. Pour elle, au fond, ce qui va se passer dans la date d'un deuxième tour qu'on est encore en train de chercher, ou même peut-être s'il faut refaire les deux tours, au fond, on sent que pour elle, c'est une forme de formalité. Et qu'elle est déjà en gestion, et là, qu'elle scénographie à dessein l'affrontement avec le gouvernement, parce qu'elle prépare aussi, bien évidemment, l'après-crise sanitaire et son bilan politique.
Bon, après, Ève Roger, on va pas y revenir dans le détail, mais la question, elle se pose quand même sur les parcs et jardins. On pourrait poser la question à Jimmy Mohamed, mais de voir encore une fois les files d'attente devant les magasins qui empêchent donc les passants, ou en tout cas qui font comme ça une agglomération de passants, on se demande s'il vaudrait pas mieux être un peu espacé, mais dans les jardins, surtout pour les enfants. Bref.
Mais je comprends, mais en même temps, vous voyez le cas de Saint-Martin, c'est-à-dire que si les personnes se sont pas civiques et ne se disent, ils font pas ce qu'il faut, c'est compliqué de dire oui, on va ouvrir pour voir arriver des armadas de jeunes avec des bières à la main. Enfin, je peux pas.
Alors voilà, on posera la question.
Je fais la grande voix.
On va aller faire un tour à Marseille, vous rejoindre Nathalie Chevance, un peu de soleil, un peu de plage qui vont peut-être bientôt ouvrir. En tout cas, ça se discute. Bon, déjà l'école c'est reparti, ça a recommencé et ça se passe, c'est plutôt bien géré.
Bah, en tout cas, sur le papier, sur les 443 écoles, il y a 443 écoles, pardon, qui ont ouvert sur les 470 que compte la ville. Alors, c'est beaucoup, hein, mais c'est vrai que depuis le début, il y a une volonté municipale. Jean-Claude Gaudin, il faut le dire, hein, qui ne se représente pas à la mairie, a toujours dit qu'il était favorable à cette reprise de la classe. Alors, il le dit, hein, c'est pour des raisons économiques. Et depuis des semaines, il martèle que tout est prêt. Hein. Il s'est même fait photographier masqué dans une salle de classe avec des enfants, dans une cour de récréation avec le personnel municipal. Alors, des agents ici, vous l'avez évoqué pour Paris, qui ont aussi la possibilité de se faire tester gratuitement auprès de l'IHU du professeur Raoult, avec des horaires dédiés pour les 3000 personnels des écoles concernées. Ça a eu pas mal de succès d'ailleurs. Et puis nous avons aussi les marins-pompiers qui, eux, sont mobilisés pour procéder à des tests de Covid-19 sur les surfaces pour voir si la désinfection a été faite correctement dans les classes. On en a parlé sur Europe 1. Bref, il y a tout. Il y a tout qui est là pour essayer de rassurer au maximum. La mairie dit que dans les écoles, bah, il y a tout. Hein. Il y a des masques, des gels hydroalcooliques. Bref, officiellement, tout va bien.
Officiellement, tout va bien. Voilà, jusqu'à quand et dans le détail, on verra ça un peu plus tard. Je reviens vous voir. Emmanuel Duteil, avec une question qui va peut-être en hérisser plus d'un quand même ce soir. Hein. C'est les 1% des Français les plus riches dont on va parler et où vous allez presque nous dire où est-ce qu'ils trouvent refuge, en quelque sorte.
Oh, je ne sais pas presque, je suis même capable de vous dire où est-ce qu'ils trouvent refuge. 43% des ménages à très haut revenu habitent en Ile-de-France, dont 20% vivent dans Paris. Je peux même vous dire que 10% du coup dans les Hauts-de-Seine. Donc on a une cartographie assez claire qui a été faite par l'INSEE. C'est une étude donc qui est extrêmement sérieuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on parle souvent de Paris et le désert français, en tout cas concernant les hauts revenus. Ça semble assez clair. Alors, il faut quand même regarder du côté de certaines régions, du côté de la frontière suisse, comme par hasard. Vous trouvez également quelques hauts revenus du côté de la frontière belge. Là aussi, tiens, vous avez quelques hauts revenus.
Donc, la Côte d'Azur également.
La Côte d'Azur également, mais c'est beaucoup plus marqué là, dans les zones que j'ai pu vous citer. Très haut revenu, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais on entend les 1% de foyers les plus aisés, c'est-à-dire ceux dont le revenu annuel avant impôt et versement des prestations, je vous laisse aller tous regarder votre déclaration de revenus, il faut que ce soit supérieur à 108 670 euros pour compter dans les 1% de Français. D'où viennent les revenus et pourquoi c'est en Ile-de-France? Parce que bien évidemment, l'Ile-de-France compte les cadres les mieux payés, compte certaines des grosses fortunes françaises. Donc c'est comme ça que ça s'explique, cette localisation des gens les plus fortunés en Ile-de-France et très précisément à Paris et on le voit du coup dans la banlieue parisienne aisée.
Et je crois que du côté des femmes seules et très aisées, on est dans le rarissime dans cette étude.
Malheureusement, ça ne change pas. Il va bien falloir que ça change un jour. Mais là, pour le moment, j'ose dire qu'on est dans l'épaisseur du trait en la matière.
C'est ça. On va revenir quand même vous voir dans un instant, Emmanuel Duteil.
J'espère bien, j'espère vous avoir pas déprimé
et vous tous les grandes voix, on refait un point. On retourne à Wuhan ce soir parce qu'on a quand même de gros doutes. Et j'en parlais avec l'infectiologue qui était mon invité sur de nouveaux cas, des résurgences, des rechutes. On va expliquer ça avec Ève Roger, la politique aussi. À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h. Et votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, jusqu'à 19h.
Oui, et puis on va prendre la direction de Marseille avec vous, Nathalie Chevance, parce qu'on a envie un petit peu de s'aérer l'esprit quand même. Voyez vers quoi je vais directement, hein. Le déconfinement en mer, bien sûr. Tout le monde y pense, tout le monde a envie de le vivre. Chez vous, ça y est, hein. Je crois qu'on n'est pas loin des activités de plaisance validées.
Oui, parce que il faut le voir, hein, beaucoup de plaisanciers ont profité aujourd'hui de la mer avec le retour du soleil. Il y avait pas mal de voiles, des petits bateaux cet après-midi entre le Vieux-Port et les îles du Frioul. Des particuliers qui se sont offerts une petite balade au large après deux mois. Il concerne ici 20 000 plaisanciers, 50 000 emplois sur la métropole d'Aix-Marseille. Alors vous comprenez l'enjeu économique. Et donc sur la façade méditerranéenne, la plaisance est donc de nouveau autorisée. Alors dans un rayon de 100 km à partir de votre point de départ. Et à la préfecture maritime, on vous explique que ce sont les mêmes consignes qu'à terre. Distanciation sociale, même port. Avec le port du masque, si l'embarcation est trop petite, pas plus de 10 personnes, même si le bateau le permet.
Et une fois au large, eh bien, rien ne vous empêche de vous jeter à l'eau pour une petite baignade, de sortir votre kitesurf ou votre paddle.
Non, mais attendez, on part tous à Marseille, là.
Non, mais alors c'est sur toute la façade méditerranéenne. Et c'est justement parce que vous êtes déjà en mer et non plus sur le littoral. Alors, c'est un petit peu subtil.
Ah oui, ça, c'est subtil.
Mais c'est comme ça. C'est voilà. Ce qui veut dire que pour les clubs sportifs, eh ben, dans leur grande majorité, ils doivent, pour le moment, patienter. Et pour ce jeu,
c'est quoi? Il y a quand même des interdictions.
Il y a quand même des restrictions. Hein. Bah oui.
Voilà. Alors quelles sont-elles précisément? Parce que moi j'ai quand même vu la une de Varmatin le jour avec ces deux Yérois qui sont allés se baigner déguisés en bouée de balisage hier.
Écoutez, alors c'est ça, c'est complètement interdit. C'est complètement interdit parce que ça dépend du maire de la commune qui va faire une demande auprès du préfet qui dira si oui ou non on est autorisé par exemple à aller se baigner en partant des plages du Prado ou aller faire du kitesurf du côté de, je ne sais pas, la Ciotat. Ce qui n'est pas autorisé non plus, ce sont les manifestations nautiques sportives comme les régates. Et puis autre chose... les balades en mer, comme les promenades dans les calanques, vous savez, qui sont organisées par des professionnels du tourisme. Eh bien, pour le moment, ça, c'est un petit peu flou. Ouais. On m'explique que c'est là du transport de passagers. Donc, ça relève du ministère des Transports. Un décret doit d'ailleurs être publié pour savoir exactement à quoi s'en tenir, comme dans un bus, finalement. Hein, et c'est ce qu'il faudra... est-ce qu'il faudra laisser un siège sur deux? On verra, en tout cas, c'est peut-être du bon sens. Bon, voilà.
Alors, j'ai juste un dernier mot parce que. Nathalie Chevance.
Non, mais juste un dernier mot parce que la préfecture maritime m'a demandé de le dire. Elle lance un appel à la prudence parce qu'on n'annonce pas du très beau temps là, pour les jours à venir. Et ils ont peur qu'avec l'envie de retourner en mer, eh bien, il y ait plein d'accidents. Voilà, tout simplement.
Bon, voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup, Nathalie Chevance, malgré tout. On va retourner avec vous, Ève Roger, sur très sérieusement, et d'ailleurs, tout est très sérieux dans les grandes voies, mais sur de nouveaux cas à Wuhan avec des rechutes et de fait, très vite, réaction, si j'ose dire, on a décidé, dans ce berceau de l'épidémie en Chine, de à la fois placer en quarantaine tout un quartier et de tester très vite, sur 10 jours, je crois, les habitants, 11 millions. Hein.
Oui, c'est ça ce qui est fou. J'ai fait un calcul, si on devait faire ça en Ile-de-France, il nous faudrait 4 mois. Et pour l'ensemble de la France, il nous faudrait près de 2 ans pour faire ces tests avec la capacité de tests qu'on a. Ouais. Mais c'est vrai que ça paraît, voilà, c'est ça, ça paraît être... Il faut le faire très très vite parce que votre situation peut changer du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'en faisant comme ça, ce qu'a fait la Vénétie en Italie, par exemple, un petit village qui a montré à quel point c'était efficace, c'est que dès que vous avez une photographie de l'état de contamination d'une ville ou d'une population, tout de suite, vous réglez le problème. C'est-à-dire que vous isolez, vous connaissez maintenant l'histoire par cœur, vous isolez les cas avérés, vous isolez les cas contacts, et puis on n'en parle plus. Ouais. Et ça marche très, très bien. Et c'est vrai que la Chine, évidemment, a les moyens en test, a les moyens aussi en, j'allais dire, politique, de le faire. Ouais. Et en même temps, on peut imaginez que la situation française, c'était un peu en regard avec ça, la situation française, elle n'est pas si mal que ça dans cette politique de test. Je sais pas, je voulais juste vous signaler qu'aujourd'hui, le site santé.fr, vous pouvez aller regarder, il y a la cartographie de tous les centres de prélèvement qui existent aujourd'hui en France. Et donc, vous allez regarder en bas de chez vous quel est le centre de prélèvement le plus rapide. Et vous appelez, il ne faut surtout pas y aller, ils vous disent vous appelez, vous prenez rendez-vous, ils vous envoient, ils vous disent vous allez à tel endroit, au Corona Drive, dans une... un gymnase, et ça peut marcher très vite aussi. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites, mais là, par exemple, en Ile-de-France, il y a 500 centres de prélèvement qui sont maintenant opérationnels.
Alors, on va continuer avec Mickaël Darmon et avec Emmanuel Duteil sur l'aspect plus économique des choses. Hein, et Mickaël, le déconfinement qui devient clairement, sur le plan économique, une priorité absolue. Comment on aide ceux qui ont été au front les premiers, les plus exposés, la hausse des salaires? On impose qui? Les hauts revenus en priorité? Comment on va procéder? C'est aujourd'hui le sujet, hein, clairement, avec le MoDem très en pointe.
Oui, c'est le débat qui monte effectivement. Quelle politique économique, quel levier on met en avant pour établir un budget qui va être évidemment une équation impossible. Et il y a des questions qui commencent à tourner, jetées ici ou là. On avait déjà vu sur le temps de travail. Maintenant, c'est des questions qui tournent maintenant autour de la politique fiscale et des salaires. Faut-il rétablir l'impôt sur la fortune ? Non, Diversi pour l'instant, évidemment. Mais on voit bien que le débat est installé, notamment, comme vous l'avez dit, autour de ceux qu'on a applaudis pendant 2 mois et qu'on va continuer à applaudir, mais qu'il va falloir maintenant aussi rétribuer de manière différente. Ce qui est intéressant, vous l'avez signalé, c'est que le MoDem prend position, tire la sonnette d'alarme sur l'urgence sociale, notamment à travers un article dans Le Monde aujourd'hui qui met beaucoup en avant le patron du groupe MoDem à l'Assemblée, Patrick Mignola. Et ça montre également la nouvelle place qui est en train de chercher à occuper donc le MoDem dans la majorité, parce que on voit bien que l'onde de choc de la fracture donc de la République en marche à l'Assemblée qui est en train de se mettre en place, puisque le nouveau groupe va se créer donc lundi ou mardi, commence vraiment à déplacer les plaques tectoniques. On sait également que il y a donc une volonté d'Emmanuel Macron de trouver un nouveau modèle d'économie politique, d'un projet pour la société. Et donc, on sent bien là qu'avec le déconfinement, le jeu politique reprend, les plaques sont en train de bouger, parce que bien évidemment, la situation sera différente de ce qu'on a connu au début de l'année.
Bien sûr. Alors justement, on va continuer à parler d'économie avec vous, Emmanuel Dutheil. Et les loueurs de voitures ont baissé leur grille ou quasiment pendant toute cette période, c'est vraiment l'asphyxie pour eux.
Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si vous le savez là, autour de la table virtuelle, puisqu'on est tous à nouveau un peu à distance. Je suis un peu tout seul, moi, dans ce grand studio d'Europe 1 ce soir. Mais par exemple, Europcar, qui est l'un des leaders en Europe de ce marché, c'est le plus gros acheteur de voitures entreprises de tous les constructeurs en Europe. Ils achètent 340 000 voitures par an. Vous imaginez ce que ça représente. Et donc là, effectivement, ils n'ont plus ou quasiment plus de clients parce que, bien évidemment, là, pendant les 2 mois, les clients loisirs n'étaient pas là, les clients entreprises n'étaient quasiment pas là. Donc, ils vont baisser leurs achats de au moins 40%, c'est-à-dire 100 000 à 125 000 voitures en moins qui vont être achetées. Donc, quand on parle des difficultés du secteur automobile à venir, je trouve que c'est un exemple qui parle de lui-même, à quel point c'est impressionnant comme la crise que l'on vient de vivre va avoir des répercussions majeures dans les mois et dans les années à venir. Parce qu'en plus, les loueurs ont un système très particulier. Ils achètent les voitures, mais ils les revendent également directement, bien souvent, aux constructeurs qui sont obligés de les reprendre. C'est une sorte quasiment de dépôt-vente, du coup, les loueurs. Donc, vous imaginez en ce moment, quand vous êtes un Renault, un Peugeot ou un Volvo, vous n'avez sûrement pas envie de récupérer des voitures en plus parce que vous ne savez déjà pas comment vous allez vendre celles que vous êtes en train de produire en ce moment. Donc, c'est juste pour donner, je trouve que ça parle à tout le monde. Tout le monde va mal dans ce secteur. Hein. Europcar, qui est donc l'un des leaders, fait partie des entreprises qui ont obtenu un prêt de la part de l'État. 220 millions d'euros pour passer la crise. Avis, qui est l'un des leaders, hein, bien évidemment, dans le monde, l'américain, lui aussi, il dit qu'il est asphyxié par cette crise du coronavirus.
Et Hertz aussi, je crois que menacé de faillite,
le troisième.
On aurait pu faire la liste, mais c'est parce que c'est vrai que ce sont des noms qui parlent vraiment à tout le monde, puisque je crois qu'on est tous passés par eux au moins une fois.
Oui, on les a tous détestés quand on a récupéré une voiture.
Merci Emmanuel Dutheil. Tâchez un chiffre rapidement, Emmanuel, si vous le voulez bien. Quand on est au chômage partiel, qu'est-ce que ça change concrètement à la fin du mois ?
Bien, à la faveur d'une étude du Figaro sur le net aujourd'hui, je suis retombé sur une étude de l'OFCE. J'étais passé à côté, mais pendant le confinement, les salariés en chômage partiel auraient perdu en moyenne 400 euros. Donc vous vous rendez compte ?
Brut ou net ?
Alors, brut ou net ? Oula, mais vous me posez une question, Nathalie. Non, c'est du net. Je pensais du net. C'est du net. 400 euros. Donc c'est quand même extrêmement symbolique sur l'impression de perte. Et là, c'est plus une impression, hein, la perte de pouvoir d'achat net. Et on le sait, hein, le nombre quand même de gens qui sont aujourd'hui au chômage partiel, on n'arrête pas de citer ce chiffre, 12 millions. Alors, faut toujours faire attention, puisque Olivier Samin du service économie d'Europe 1 m'a dit « Attention, quand tu parles des 12 millions, tu exagères un peu. » Parce qu'il y a eu 12 millions de demandes, ça ne veut pas dire que toutes ces demandes vont être validées parce que les entreprises font leur demande au début du mois et parfois elles se rendent compte qu'elles ont un peu plus besoin de monde que ce qui avait été prévu. Mais bon, il n'en reste pas moins qu'on vit une situation historique et je me tèche par un Marseille, je prends mon maillot de bain.
Alors attendez, ça tombe bien parce que Nathalie Chevance, je reviens vous voir. Je voulais conclure avec Ève Roger, avec Nathalie Chevance, par les écoles. Parce qu'évidemment, les enfants y sont retournés aujourd'hui. Nathalie, vous nous avez fait dans la première partie les bons points. Il y a aussi des points plus critiques, hein, en quelques mots.
Parce que vous savez bien, les écoles à Marseille, c'est quand même un sujet brûlant. Hein, c'est un sujet politique aussi. Bien sûr. Que l'opposition municipale prend et relayée par des témoignages de plusieurs enseignants, hein, d'abord sur l'état dégradé de certaines écoles, notamment des sanitaires avec du matériel parfois défectueux, des masques à disposition, oui, mais dont l'emballage a été parfois ouvert prématurément, des bonbonnes de gel hydroalcoolique, oui, mais sans aucun dispositif pour le distribuer, bon, des personnels municipaux qui manquent à l'appel, Force ouvrière, qui est le syndicat majoritaire, estime que la moitié des effectifs territoriaux ne sont pas là en raison de maladies. Oui. De garde d'enfants. Et puis plus inquiétant, il y a une vingtaine d'écoles des quartiers nord qui sont restées fermées sur recommandation de l'ARS. C'est une sorte de rentrée. Les enseignants.
Ouais.
Oui, ils disaient que la rentrée a été reportée dans une vingtaine d'écoles des quartiers nord. Vous m'entendez bien? Parce qu'il y a des suspicions de foyers épidémiques. Et puis les enfants, 10 000 attendus cette semaine. 20 000, un quart de l'effectif global. Ils sont donc pas si nombreux et certaines écoles, notamment toujours dans les quartiers prioritaires, n'ont d'ailleurs pas rouvert parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs, pas assez d'enfants. Les familles des quartiers défavorisés ont beaucoup de craintes de les renvoyer en classe. Vous voyez, il y a donc une réalité de terrain qui contraste quand même avec les discours officiels.
Bien sûr. Alors Ève Roger, c'est par vous qu'on conclut parce que cette première journée, un peu partout en France, là on zoomait sur Marseille. Quels sont vos retours à vous?
On a entendu Bordeaux, on entend l'ouverture des classes à Bordeaux. Moi, ce que j'ai pas mal entendu malgré tout, c'est la joie des enfants. Il y a quelque chose d'assez agréable à entendre. Mais bien sûr, il y a les mesures barrières, bien sûr, il y a toutes les contraintes dont a parlé Nathalie, mais c'est la joie des enfants. Et moi, je pense aujourd'hui aux écoles qui n'ouvrent pas du tout cette semaine. Et encore pas. J'ai fait un petit calcul. Selon le SNUIPP, il pourrait y avoir 6000 écoles qui n'ouvriront pas avant peut-être septembre. Et c'est vrai que moi, je pense à ces enfants-là. Et on sent la tristesse des enfants quand ils savent qu'ils ne retourneront pas à l'école.
Ouais, et je crois qu'à Paris, c'est encore plus prégnant. En tout cas, c'est le cas là, dans le 15e arrondissement, tout près d'ici. Merci beaucoup, les grandes voix. Merci, Nathalie Chevance, depuis Marseille, qui nous a un peu vendu du rêve quand même ce soir, hein, avec ses promenades en mer.
Il va pleouvoir.
Oui, voilà.
Je veux bien y aller sous la pluie quand même.
Merci à vous, les grandes voix. Demain, avec plaisir.